Alors bonjour Aurélien Lefrançois pour Proxy Jeux en direct d'Octogone, le salon Octogone qui est à Lyon. Et pour cette première série d'interviews, je suis avec Xavier Mérand qui va dire bonjour.
Oui, d'accord. Si tu me dis de dire bonjour, je dis bonjour. Moi, je suis quelqu'un de poli. Bonjour Aurélien, bonjour à tous.
Voilà, donc qui va nous parler aujourd'hui de son association qui s'appelle Accessi Jeux. Présentation, est-ce que tu peux nous présenter Accessi Jeux, nous dire en quoi ça consiste?
Oui, tout à fait. Alors, Accessi Jeux, c'est une association qui existe depuis presque 2 ans maintenant, qui, comme son nom l'indique, Accessi comme accessibilité, une association qui s'attache à rendre les jeux de société modernes, accessibles aux personnes déficientes visuelles, donc malvoyantes et non-voyantes. Ça englobe quand même beaucoup de personnes, puisque ça va des enfants aux personnes âgées. Donc on s'attaque à beaucoup de types de jeux différents, parce que forcément ce n'est pas les mêmes publics. Et donc on essaye de trouver des solutions un peu innovantes pour rendre les jeux accessibles, tactiles, et en même temps les préserver pour qu'ils restent agréables pour les personnes valides, pour faire en sorte que tout le monde ait plaisir à jouer ensemble.
Et donc ici à Octogone, tu animes un espace dans lequel tu présentes tes jeux Accessi Jeux et est-ce qu'on peut y jouer? Comment est-ce que tu fais?
Oui, alors en fait, c'est vrai que quand on vient sur les salons, Octogone comme les autres qu'on fait, notre mission, elle est double. Elle est à la fois de proposer un espace accessible pour les déficients visuels. On essaye toujours un peu de communiquer en amont des salons, des festivals, pour dire qu'on est là, mais c'est quand même assez difficile à faire déplacer les déficients visuels. C'est un travail de longue haleine. Donc on va voir si on en aura. On en a toujours un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'a pas des quarts entiers de déficients visuels qui viennent parce qu'on est là. Mais donc ça a l'avantage aussi pour le festival de pouvoir communiquer là-dessus, sur le fait que le festival soit accessible. Et aussi, on a une mission de sensibilisation, à la fois du public, qui peut essayer les jeux que nous avons adaptés avec des masques occultants. Et aussi, on est un petit peu là aussi pour sensibiliser le monde du jeu dans sa globalité, les éditeurs, au fil des discussions, de leur montrer que parfois, il ne faut pas grand-chose pour rendre un jeu accessible, même si des fois, le pas grand-chose pour nous, ça peut être énorme pour les éditeurs, parce qu'on sait que l'économie des coûts de fabrication d'un jeu, c'est très fragile, et que, bon, des fois, ils pensent pas que... Il serait utile de mettre quelques centimes d'euros en plus pour rendre un jeu accessible. Mais bon, si c'est que quelques centimes, c'est vrai que c'est dommage, mais c'est vrai que dans la plupart du temps, il faudrait quand même rajouter beaucoup pour que les jeux soient vraiment accessibles.
Alors du coup, j'imagine que tous les jeux de société ne sont pas aussi aisés à rendre accessibles. Donc dans le travail d'Accessi Jeux, est-ce que tu as été confronté à des jeux qui t'ont peut-être posé plus ou moins de problèmes? Quelles sont tes références de facilité, de difficulté?
Ouais, en fait, dans toute la gamme de jeux qui existent, déjà, nous, on est pour le moment très positionné sur le jeu familial, jeu d'un quart d'heure, jeu de cartes, voilà, très court, très facile, avec peu de matériel, parce qu'évidemment, moyen de matériel à adapter. C'est évident que des jeux avec des grands plateaux, des pions qui se déplacent, des unités qui vont conquérir le monde, tout ça c'est hyper complexe, parce que ça veut dire que pour savoir la situation du jeu, il faut aller toucher avec ses mains pour savoir où est tel ou tel pion, etc. On renverse tout. Donc tout ce type de gros jeux-là, pour le moment, on n'a pas encore trouvé vraiment les solutions pour les adapter. Mais bon, rien que dans les jeux de cartes, même dans les jeux de cartes avec des mécaniques un peu plus poussées, qui sont plus que du jeu pour enfants ou du jeu familial, il y a déjà de quoi faire, puisqu'on a différents systèmes en fait pour adapter les jeux. On les adapte, bon, pour les jeux de plateau, on fait quelques trucs à l'imprimante 3D. Et pour les jeux de cartes, on a toute une gamme de stickers en relief, transparents, qui nous permettent d'encoder les cartes et donc du coup, avec ce code, de savoir ce qu'il y a sur les cartes. Et arrive là courant début janvier une grande innovation, un scoop pour vous, cher ami. Nous sommes en train de développer une application smartphone qui va restituer en synthèse vocale le contenu d'une carte.
Ah,
Ce
super.
qui fait que tous les jeux avec du texte, qui sont pour le moment totalement inaccessibles, parce que si vous me dites d'adapter une carte sur laquelle il y a une carte bleue numéro 5, pas de problème, avec un petit code, avec un sticker, je le fais. Mais une carte sur laquelle il y a marqué 25 lignes avec le pouvoir d'un personnage, etc., c'est juste impossible. Donc là, l'appli est en cours de développement, a été financée par un certain nombre de partenaires, et va voir le jour début janvier. on est à l'association, on est très excité parce que ça va nous donner accès à tout un tas de nouveaux jeux en fait.
Eh bien oui, effectivement, c'est un scoop de taille. Donc c'est très intéressant de voir ça. Ça, effectivement, ouvre pas mal de nouvelles perspectives. Et bah, du coup, ça me fait penser à Accessi-Jeux. Qui est Accessi-Jeux? C'est-à-dire, en fait, est-ce que vous êtes une association? Vous êtes combien de bénévoles? Vous êtes répartis où en France? Voilà, si tu peux me parler un peu plus de la structure.
Oui, alors la structure, elle est née bon, de trois copains, hein, dont moi. Moi, j'étais le bigleux de service qui faisait chier pendant les parties parce que il fallait écrire des trucs en gros sur les cartes, etc., pour que j'y voie, ou bien mettre la lampe au-dessus de là. Donc ça a toujours été problématique. Et finalement, on s'est dit, bon, est-ce qu'on pourrait pas, je suis sûrement pas le seul bigleux qui aime jouer, est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver des manières un peu professionnelles d'adapter les jeux pour que les autres personnes n'aient pas à chercher dans leur coin, à bidouiller, etc. Et donc, on a créé cette association à trois au départ. Aujourd'hui, on est six dans le bureau, puisqu'il y a des bénévoles qui nous ont rejoints, qui se sont tellement impliqués dans l'association qu'on a eu envie de les intégrer dans le bureau de l'association. Mmh. On a environ 60 membres aujourd'hui, dont des particuliers et des ludothèques. Et quand même 930 même followers sur Facebook. Donc, c'est un sujet qui intéresse vraiment parce que ça touche vraiment beaucoup de gens. Ça peut toucher des parents d'enfants déficients visuels qui se demandent quoi offrir à Noël ou aux anniversaires, sorti du Uno ou du Milbourne qu'on va trouver dans des boutiques spécialisées. Les jeux modernes ne sont pas du tout accessibles. Donc, depuis que notre offre existe, on intéresse forcément les parents. On intéresse les déficients visuels eux-mêmes qui sont ados, jeunes adultes, de tous âges pour jouer. Les personnes âgées qui commencent à se dire « Ah, Accessi-Jeux, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez comme jeu ?» Parce que les personnes âgées aiment beaucoup jouer. Mmh. Voilà, il y a vraiment une grosse communauté qui est en train de naître autour d'Accessi-Jeux et qui est censée logiquement beaucoup grandir, puisque aujourd'hui, on a 930 followers, mais il y a 1,5 million déficients visuels en France. Et donc là, on ne parle que de la France. Donc, s'il s'agit d'adapter un jeu sans texte, une fois qu'il est adapté. Nous, là, par exemple, on a une association qui s'appelle Accès Culture, qui s'occupe de rendre la culture accessible aux déficients visuels, qui est partie en Birmanie, et donc qui a emmené deux jeux de chez Gigamic, un Corridor et un Quarto. Donc il n'y a pas de texte, donc c'est parfait, mais on les avait adaptés, et ils ont offert ça à des enfants aveugles en Birmanie. Donc les jeux accessi-jeux s'exportent aussi.
En parlant d'exportation, une petite question comme ça. Donc nous sommes à l'heure où nous parlons, la diffusion ce sera un peu différent, mais nous sommes à 2 semaines de Essen, le fameux salon d'Essen. Est-ce qu'il est prévu qu'Accessi-Jeux aille à Essen cette année ou une autre année?
Alors pas vraiment pour le moment parce que déjà on a déjà beaucoup à faire en France.
Oui, ah oui.
On a déjà des problématiques de frais de déplacement pour quand on vient dans les festivals. La première année, on l'a fait beaucoup. Nous, à nos frais, pour nous faire connaître du monde du jeu et aussi en province des associations de déficients visuels. Maintenant, on essaye de faire en sorte que les festivals qui nous demandent de venir, comme on est aussi un petit peu pour eux un gage d'accessibilité, qu'ils mettent au moins un peu les moyens pour nous défrayer pour venir. Une fois que l'association sera sur un modèle assez pérenne, on pourra envisager de s'attaquer entre guillemets au marché européen et donc aller à Essen. Enfin, on est déjà un peu sur l'Europe puisqu'on a déjà été en Belgique et on est invité encore dans un nouveau. On a été au Brussels Game Festival et on est invité au festival Trolls et Légendes de peut-être tu sais où c'est, à Mons, voilà. Le reste de l'Europe, pas tout de suite. On a déjà beaucoup de boulot sur la France.
D'accord, oui. C'est, effectivement, ça a 1 500 000 déficients visuels déjà en France. Ça laisse.
Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va leur vendre un jeu à tous. D'ailleurs, justement, là, puisqu'on parle de vendre des jeux, le modèle de l'association n'est pas du tout de gagner de l'argent en vendant des jeux à des personnes déficientes visuelles, puisque nous vendons les jeux à prix coûtant. D'accord. Sachant que en fait, nous on a des partenariats avec les éditeurs qui nous envoient des jeux pour qu'on fasse nos tests d'adaptation. Une fois que les jeux sont testés et validés, c'est-à-dire que le jeu ne doit pas juste être accessible, il faut qu'il soit jouable aussi, parce qu'un jeu, c'est pas parce qu'il est tactile qu'il va être jouable. Si un jeu qui est censé durer un quart d'heure dure 2 heures, c'est pas bon. Donc une fois que le jeu est vraiment validé, on l'ajoute à notre boutique et nos adhérents peuvent acheter les jeux au même prix qu'un jeu qui ne serait pas adapté, en fait. Donc, on se sert de la marge que se fait habituellement une boutique en ligne, nous, pour inclure les adaptations. parfois changer le matériel, faire fabriquer des stickers tactiles, etc.
D'accord.
Donc.
Ça tombe bien, j'avais une question dans ma liste concernant
Ouais.
c'est le business model. Donc merci de l'avoir un peu anticipé. Je me demandais tout simplement si vous aviez une velléité de salarier des gens, ou si c'était dans les cartons, ou si c'était pas pertinent.
Forcément, si on y arrive un jour, ça veut dire que ça sera bien, on aura bien grandi. Il faut savoir que moi, je suis moi-même déficient visuel, donc je bénéficie du statut de personne handicapée, donc j'ai une pension. Donc pour le moment, j'aurais aucun intérêt, si jamais on gagnait suffisamment d'argent pour me salarier, j'aurais aucun intérêt à le faire, puisque je perdrais ma pension, je prendrais le salaire à la place, autant que je garde ma pension et qu'on salarie quelqu'un d'autre à l'association. Donc c'est sûr que le premier salaire qui tombera, ça sera vraisemblablement pour un poste administratif, parce que si je pouvais me délester de tout ça, ça serait plutôt cool. Enfin, il y a quand même le secrétaire et les trésoriers qui sont là pour ça, mais c'est vrai que moi, je suis un peu, c'est moi qui suis un peu au four et au moulin dans l'association, et je fais aussi une petite partie de leur boulot. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. On a fait une réunion de bureau il n'y a pas longtemps en disant il faut que j'arrive à plus déléguer, mais bon, ça, c'est mon problème.
Ah, ça c'est un problème assez récurrent en associatif au final. Un président qui porte vraiment une asso, c'est normal de vouloir faire pas mal de choses. Et du coup, tu travailles avec Stéphane Rochard aussi un petit peu, c'est
Oui,
ça?
tout à fait. Ouais. Stéphane, en fait, il était venu. Alors, suite à un appel à bénévoles sur Facebook, parce qu'on est vraiment, si vous nous entendez, à la recherche de bénévoles, un peu partout en France d'ailleurs, faut le dire, surtout à Paris, parce qu'à Paris, on organise des événements mensuels, les soirées Jeux pour tous qui ont lieu le premier jeudi de chaque mois à la Maison des Associations du 12e. Mais sinon, comme je vous ai dit, on est pas mal dans les festivals en province. Et quand on peut avoir de temps en temps un petit coup de main sur place, c'est cool. On a notamment une bénévole lyonnaise qui nous avait donné un coup de main au festival, je ne sais plus comment il s'appelle, Ludic West de Saint-Étienne. Elle y avait été l'année dernière pour la première édition. Bon, là, elle a déménagé maintenant, elle est sur la région Champagne, donc on va essayer de lui trouver des festivals à faire en région Champagne. Mais voilà, comme nous, notre mission, elle est aussi, comme je le disais, de faire un peu de la sensibilisation et de pouvoir rendre des festivals accessibles. Quand on arrive à trouver des gens qui s'impliquent un peu dans notre projet, même en province, on peut faire passer un kakémono, un petit stock de jeux, et puis une fois qu'ils ont bien compris le principe de l'association, ils peuvent nous représenter en province, même si on n'est pas là, quoi.
Ok, super. Une petite dernière question. Donc, tu as déjà, en fait, non, deux dernières questions. Tu as aussi lancé, enfin, Accessible a lancé un crowdfunding, un financement participatif concernant une
Yes.
imprimante en braille, imprimante de braille. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? Est-ce que ça a marché?
Alors déjà, je
Etc.
dois dire qu'il n'y a que des personnes sympathiques qui ont participé à ce crowdfunding, puisque tu en fais partie, n'est-ce pas? Et
Mais
non,
oui.
ça a été une vraie belle surprise, parce qu'il y avait quand même 3 000 euros à lever. L'imprimante au total coûtait 3 600, donc avec la petite marge que se prend la plateforme, on a quand même dû retrouver des sous après, mais ce gros apport du crowdfunding a fait qu'on justement on a trouvé un partenaire qui a mis le reste après. Et ça nous a permis donc d'acheter une imprimante braille qui nous permet, alors pas de faire des règles du jeu en braille, parce que là ça prendrait vraiment beaucoup trop de place, on pourrait plus les mettre dans les boîtes. Nous, notre objectif, il est vraiment de livrer les jeux adaptés, donc les règles du jeu, on les livre sur CD audio. Par contre, on peut faire des aides de jeu. Les aides de jeu, ça tient dans les boîtes quand les aides de jeu ne sont pas trop grandes, quoi, mais qui, voilà, pour ceux qui lisent le braille, parce que tout le monde ne lit pas le braille, hein, chez les déficients visuels. Il y a, sur 1,5 million de déficients visuels, il n'y a que 10 000 personnes en France qui lisent le braille. Donc ce n'est pas non plus la solution ultime, mais ceux qui le lisent sont contents d'en avoir. Donc on aurait tort de les en priver. Et donc ce projet de crowdfunding a super bien marché et a notamment été hyper relayé, hyper soutenu par le monde du jeu. 80% du crowdfunding a été amené par des gens du monde du jeu, des éditeurs, des auteurs, des illustrateurs, illustres ou non. Vraiment, ça a été vraiment une belle surprise, parce que moi qui fréquente le monde du jeu, que je connais pas tout le monde du tout personnellement, mais je connais les noms en fait du monde du jeu. Et quand tu regardes qu'un tel, un tel a souscrit, quoi, ça fait plaisir de voir que c'est un milieu où les gens sont réceptifs à notre mission, quoi.
Ben oui, tout à fait. Et donc, dernière petite question, comme je disais, donc dans les nouveautés 2017, tu m'as effectivement évoqué cette application smartphone, qui est donc le grand scoop, hein, de cette interview. Est-ce que tu as...
Il y en a un deuxième scoop aussi.
Ah, il y a un deuxième scoop. Eh ben écoute, vas-y, je t'en prie, deuxième scoop. Puisque
ben attends, mais je ne vais pas non plus... T'as une autre question. Ben le non, deuxième scoop, c'est qu'en même temps que devrait voir le jour l'application, devrait voir le jour notre propre lieu à Paris. Pour le moment, on était dans une pépinière associative qui regroupait 11 associations. Mmh. Et là, on va ouvrir un lieu dans le 12e. Vraisemblablement, on est en train de chercher, mais ça serait dans le quartier de Bercy. Mmh. Et ça serait officiellement la ludothèque du 12e arrondissement. C'est-à-dire qu'en plus d'être notre local où on va faire nos ateliers pour adapter les jeux, etc., on va avoir une activité de ludothèque et un point de retrait physique de la boutique en ligne où les gens, du coup, pourront venir chercher les jeux qu'ils ont commandés aussi.
Extraordinaire. Ma question, c'était quelles sont les grandes nouveautés 2017 pour Accessi Jeux. Donc là, ça fait déjà une bonne
dose. Ça fait pas mal déjà.
Ça fait une bonne dose de nouveautés, tout à fait. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin?
Le mot de la fin, venez essayer le jeu à l'aveugle. Venez voir ce que ça fait, que ce soit dans nos soirées jeux ou dans les festivals, si vous voyez qu'on est là. Osez franchir le cap de venir vous asseoir à notre table. C'est pas des jeux réservés aux déficients visuels. Osez jouer avec des déficients visuels. C'est pas parce qu'ils voient pas qu'ils jouent moins bien. Mais c'est pas parce que aussi on a fait une Trick Track TV où Guillaume l'animateur avait mis un bandeau à jouer avec nous et il a dit une phrase très juste: accessi jeu, ça rend les jeux accessibles, mais ça fait pas mieux jouer.
Tout à fait. Et c'est vrai que à titre personnel, ayant essayé certaines expériences de jeu à l'aveugle, ne serait-ce que dans des jeux de rôle avec un œil en moins parce que je vois un pirate en criant avec un cache-œil, bah, ça change quand même pas mal de choses et c'est des
surtout au moment où t'as crevé le deuxième.
Voilà, c'est ça. Là, je me suis dit, ah, je vois plus rien du tout, c'est terrible. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Xavier.
Eh ben, avec grand plaisir. Merci
et
à toi.
Et puis, bah, à bientôt sur Paris dans le 12e ou lors des soirées que je remettrai dans le petit billet proxy jeu.
Yes.
Voilà.
À bientôt. Merci.
Donc je suis en direct de Lyon pour le festival Octogone et je suis en ce moment même avec Fanny Roux.
Bonjour.
Voilà, qui fait partie de l'organisation du festival Octogone et qui va nous parler un petit peu de Octogone, qu'est-ce que c'est, quoi que ce soit, depuis quand, tout ce genre de choses. Donc Fanny, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur Octogone, sur la genèse?
Tout à fait. Alors Octogone, donc, c'est la convention du jeu et de l'imaginaire en Rhône-Alpes. Cette année, c'est la 7e édition de la convention. À la base, c'était une convention qui était très axée geek, entre guillemets. Et au fur et à mesure, en fait, a tendance à se démocratiser un peu plus. Et on essaye de plus en plus d'ouvrir à la famille parce que les geeks, de nos jours, ont des enfants et qu'il faut qu'on arrive à contenter un peu tout le monde. Mmh. Voilà, c'est une convention sur laquelle on peut trouver toutes sortes d'activités. On va avoir tout ce qui est jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de figurines, jeux de cartes à collectionner, jeux de cartes évolutifs, jeux de grandeur nature, jeux de rôle grandeur nature. Et on a aussi toute une partie fiction où on invite des auteurs et illustrateurs d'œuvres littéraires, mais plus axé science-fiction et fantasy.
D'accord, donc résolument un aspect imaginaire qui est très...
Voilà, la convention du jeu et de l'imaginaire.
Et ben, c'est dans le nom, c'est
plutôt
parfait.
Bien son nom.
C'est fantastique, donc ça veut dire qu'on est sur un public qui est vraiment il y a une proportion, moitié famille, moitié passionné.
Alors, je pense que pour l'instant, on a quand même beaucoup plus de passionnés que de public familial, et notamment aussi en raison des prix. C'est une convention qui est payante, pour laquelle pour l'instant on n'a pas de subvention. C'est un événement qui coûte assez cher à organiser, et du coup on a des tarifs d'entrée qui peuvent peut-être sembler un peu prohibitifs pour quelqu'un qui connaîtrait pas trop le milieu. Mais c'est aussi quelque chose sur quoi on est en train de travailler, c'est-à-dire qu'on a mis en place des entrées courtes durées, avec un tarif à l'heure, pour que les personnes, si jamais elles ne sont pas sûres de vouloir rester sur la convention, donc elles payent l'entrée de la journée normale qui est 12 euros. Et si jamais elles restent moins de 3 heures sur la convention, on les rembourse à hauteur de 3 euros de l'heure qu'elles n'ont pas passé sur la convention.
D'accord.
Donc ça leur permet de faire un tour, de découvrir et puis de rester si ça leur plaît.
Donc ça veut dire qu'au niveau sous, tu disais que vous n'avez pas de subvention.
Oui.
C'est un festival qui est géré vraiment en interne par les entrées.
C'est ça. Ça vient les finances surtout des exposants. Parce que les exposants qui sont sur la convention nous payent un tarif de stand. On a des financements qui viennent aussi donc des ventes des entrées, des goodies un petit peu et de la buvette.
D'accord, ça marche. Donc du coup, un modèle effectivement sans subvention, en autonomie. Voilà. Donc, ce qui permet aussi d'avoir une certaine indépendance.
Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on n'est pas contre avoir des aides municipales.
D'accord. Et bah, en termes de volume, en ce qui concerne le nombre de, vraiment pour l'aide en numérique, par ouais. exemple, combien de visiteurs vous aviez eu sur un précédent?
Alors l'année dernière, on était aux alentours de 4500 visiteurs sur le week-end.
D'accord.
Donc ça fait quand même pas mal de monde. Après, ce n'est pas des chiffres qui sont vraiment très très justes, mais c'est pareil, on essaye de compter au plus juste. Chaque année, quoi.
D'accord. Et vous êtes combien dans l'équipe en termes d'organes bénévoles?
Il y a plusieurs strates, en fait.
Ouais.
Il y a un organe de gouvernance qui prend les décisions un peu importantes sur les directions de la convention, où on est 5.
Mmh.
On a l'équipe d'organisation générale, où on va dire qu'on est une petite trentaine, répartie en différents pôles d'activité, donc qui correspondent aux activités qu'on peut trouver sur la convention. Et après, on a les bénévoles donc, qui sont là, surtout le week-end. Et je pense que tout pôle confondu, on est autour des 300 bénévoles.
D'accord.
Donc ça fait du monde.
Ça fait du monde, effectivement.
Ouais.
Ça fédère un petit peu les environs. Donc je vois aussi qu'il y a pas mal d'acteurs locaux sur lesquels on reviendra plus tard dans le podcast. Enfin, vous avez une bonne relation, j'imagine, avec les acteurs lyonnais. Parce que vous avez aussi des liens avec le reste de la région, peut-être avec le festival de Valence ou des choses comme ça.
Alors, pas encore pour le moment. C'est vrai que donc l'association La Fagira, c'est la fédération des acteurs du jeu et de l'imaginaire en Rhône-Alpes. C'est l'association qui a été créée donc, pour l'organisation de la convention. Son but à terme, vraiment, c'est d'arriver justement à fédérer tous les acteurs du milieu ludique et imaginaire en Rhône-Alpes et Auvergne, hein, du coup. Mais pour l'instant, c'est pareil, c'est un travail qu'on commence tout juste parce que c'est toute une organisation qui est 100% bénévole. D'aller rencontrer des gens et d'essayer de les fédérer, ça prend du temps. Et malheureusement, pour l'instant, on en manque un petit peu. Mais c'est vraiment quelque chose, une direction qu'on aimerait bien, sur laquelle on aimerait bien aller. Vraiment arriver à faire de cette Fagira quelque chose d'assez...
D'accord. Peut-être au modèle...
D'assez fort, quoi.
Peut-être en fonction de ce que fait aussi la fédération qui gère l'Udinor, qui elle a fait des jeux. J'avais le nom sur le bout de la langue, qui fait un petit peu ce genre de choses dans la région Nord. Quoi.
C'est un peu
la
vocation. Ce serait bien, ouais.
D'accord, ça marche. Donc, est-ce que vous avez d'autres actions en dehors, pour l'instant, dehors d'Octogone à l'année?
Pas vraiment, non. C'est vraiment... Octogone, ça nous occupe toute l'année, en fait.
Oui.
À peine la convention finie, il faut déjà qu'on reparte
bien sûr.
Sur l'organisation de l'année d'après. Si on arrive à vraiment faire quelque chose de fort de cette Fagira... L'idée, c'est vraiment d'arriver à relayer les événements des autres associations qui seraient adhérentes, par exemple, et de dire qu'elles sont organisées au nom de la Fagira.
D'accord, très bien. Et alors, en ce qui concerne l'Octogone à proprement parler, donc c'est un festival qui est résolument un mélange entre le jeu de rôle et le jeu de société. Hein.
Ouais.
C'est un ratio qui est assez intéressant et que personnellement, je vois assez peu sur d'autres festivals. Mmh. Même les festivals qui ont un peu de l'un et un peu de l'autre, il y a souvent un déséquilibre.
Ouais.
Là, j'ai l'impression qu'il y a une vocation d'équilibre.
Tout à fait. Alors, à la base, Octogone a été réputé à la base vraiment justement pour son pôle jeu de rôle. C'est vrai que les gens se déplacent de assez loin pour venir faire leur partie de jeu de rôle. Et depuis quelques années, c'est vrai que le pôle plateau prend une proportion un peu plus importante. Mais c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs locaux. Il y a plein d'associations qui se créent autour du jeu. Et du coup, c'est d'autant plus de monde qu'on peut impliquer aussi dans l'organisation et qui fait que ça équilibre aussi avec le jeu de rôle. Quoi.
Donc, je pense notamment à la CAL, la collectif des auteurs lyonnais,
ouais.
avec lequel vous êtes en lien, j'imagine.
C'est ça. Okay. Et il y a aussi l'association Ambiance et Jeux, la structure professionnelle Elude, avec qui on est en contact et qui travaille beaucoup aussi sur cette ouverture.
Et en ce qui concerne le tissu ludique lyonnais, parce que finalement c'était un tissu qui était aussi beaucoup, je pense, axé autour du fameux feu Ludopole qui ouais. n'existe plus. Alors comment vous l'avez vécu au sein d'Octogone, cette transition avant-après Ludopole? Est-ce que ça a eu un impact?
Bah, j'ai pas l'impression plus que ça. J'ai pas non, vraiment l'impression que ça nous ait impacté plus que ça. C'est vrai que le Ludopole a fermé l'année dernière. Après, c'est peut-être encore trop tôt, là, dans le week-end, pour voir si ça pourra avoir un impact. Mais ouais, non, pour l'instant, je saurais pas vraiment dire, quoi.
Ok. Et alors, de petites questions, disons d'ouverture, ouais. On va faire un peu façon rédaction. donc, il y a beaucoup de jeux de rôle, beaucoup de jeux de société. Ouais. Est-ce que un jour, il y aura du jeu vidéo à Octogone?
Eh bien, c'est une question qu'on commence à se poser parce que... ça fait partie hein, de l'univers, ça fait partie de l'univers de l'imaginaire aussi. Il y a de plus en plus de liens qui se créent en plus entre le jeu de société et le jeu vidéo. On a de plus en plus de jeux connectés. Et c'est vrai que le jeu vidéo pourrait avoir sa place. On a aussi des associations d'ailleurs, une des associations qui est G2L2, qui organise pas mal d'événements rétro gaming et tout ça. Mmh. Et c'est vrai que... On connaît les acteurs, on est en lien avec des salles d'arcade, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Après, là, niveau espace, on est déjà pas mal. Si en plus, il faut inclure encore d'autres univers, ça peut être compliqué. Mais c'est vrai que régulièrement, on se pose la question. On n'a pas franchement encore bien tranché et trouvé des arguments...
Et pour l'instant, c'est plutôt une question finalement de logistique et d'énergie plutôt que de barrières.
Ouais, pour moi, il n'y a pas de barrière plus que ça. Après, il y en a peut-être qui vont dire oui, mais ce n'est pas l'esprit initial de la convention. Ben oui, mais il faut évoluer aussi avec le temps, quoi.
Bah, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Fanny. Mais est-ce que pour terminer, tu aurais un mot de la fin?
Eh bien, rendez-vous l'année prochaine sur Octogone 8.
Rendez-vous par l'année exemple. Prochaine sur Octogone 8. Eh bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup.
Bah, de rien. Avec plaisir.
Donc, bonjour à tous, ou plutôt rebonjour. C'est toujours Aurélien, toujours de Proxy Jeux, et toujours en direct de Lyon et de la convention Octogone, en convention lyonnaise avec laquelle je suis en ce moment avec les membres du café associatif. Moi, je m'en fous, je triche. Donc, ils sont donc Camille, Simon et Nathalie, ici pour vous servir.
Bonjour
et...
à tous.
Bonjour.
Voilà. Et donc, pour découvrir un petit peu ce café associatif qui contribue au réseau ludique lyonnais, pour voir un petit peu ce qui se passe dans la ville. Bah, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce café associatif, me décrire un petit peu la triche?
Alors, moi, je m'en fous, je triche, c'est une association, c'est un café ludique associatif qui existe depuis maintenant 12, voire 13 ans. C'est un café associatif qui a 4000 adhérents, qui a 1400 jeux. C'est 80 bénévoles pour tenir les permanences. C'est une ouverture tous les jours de la semaine, à l'exception du lundi. C'est quasiment 50 personnes tous les soirs, c'est la folie des jeux, des meeples dans tous les sens, c'est des torrents de cubes qui tombent partout. Bref, c'est le lieu ludique incontournable de Lyon. Il faut venir, voilà.
Ben ça paraît déjà très très enthousiasmant. Donc, tu disais, Camille, que ce lieu existait depuis 12 voire 13 ans. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la genèse, de ce qui a motivé le début de ce projet, en fait? Comment est-ce que la triche a commencé? Quelle est l'historique?
Alors, on va laisser la parole à Nathalie, qui était là à la genèse de la triche et qui saura tout expliquer dans les moindres détails.
C'est à la base des animations dans les cafés, dans les bars, pour faire des animations de jeux de société. Et puis l'envie de se poser un moment dans un lieu qui nous appartient pour faire plus d'animation avec cette intention de faire jouer aux jeux de société et de pouvoir boire un coup pour le côté convivial en fait, qui rajoute ce côté-là convivial au jeu, quoi. Donc voilà, ça a commencé en 2002. En 2003, on a trouvé un petit local. 3 ans plus tard, on a déménagé parce que le local était vraiment trop petit. Et donc maintenant, depuis 9 ans, 10 ans, on est dans ce nouveau local où on peut accueillir jusqu'à 50 personnes.
C'est rue René Lénaud, c'est à côté de la place des Terreaux, au début des Pentes de la Croix-Rousse, pour endroit situé géographiquement.
Pour nos auditeurs qui viendraient sur Lyon, maintenant, vous savez où vous arrêtez le soir. C'est précis. D'accord, ça marche. Et donc, ce café associatif, on en parlait au début de l'émission, c'est peut-être un des premiers cafés associatifs de ce type qui a existé en France. Alors,
En dehors de Loya, ouais, qui faisait aussi café, jeux, avec aussi une boutique et d'autres projets. Mais à notre connaissance, on est peut-être les premiers après.
Tant que personne n'est venu nous dire qu'on était avant nous, c'est nous.
Enfin, peu importe. En tout cas, après, il y en a eu d'autres qui sont venus nous voir aussi pour faire un petit peu la même chose, enfin, s'inspirer et puis faire d'autres cafés associatifs dans d'autres villes. Suite à ça, on a essayé de se fédérer. On a monté le réseau des cafés ludiques, qui est encore une association de fait, mais qui n'est pas officielle.
Qui est toute jeune.
Donc voilà, on partage au moins nos expériences depuis longtemps, mais l'association en création, on va dire.
Monte en puissance.
Et puis, avec un point d'orgue là sur. Ça fait plusieurs années qu'on fait le. Enfin, ça va faire la troisième année qu'on fera la buvette du off de Cannes. Donc voilà, c'est un moment où on peut se retrouver, où on peut discuter entre nous aussi, se connaître sur les différents cafés de France. Mm-hmm.
Eh ben, quel café sont représentés dans le réseau des cafés ludiques, par exemple?
Archijeu, qui est à Cray, La Femme de l'Ours, qui est à Nancy. Qu'est-ce qui reste encore? Il y a L'Heure du Jeu, qui est à Rennes. J'espère que je ne vais pas trop en oublier. Il y en a d'autres, mais qui viennent de façon très épisodique. Et il y en a qui n'existent plus aussi, comme Ludicafé, qui était à Clermont.
D'accord. Et donc, en ce qui concerne le café en soi, est-ce que vous, quelle relation vous entretenez avec les boutiques de jeux de société ou d'autres cafés-jeux lyonnais? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez une relation de confiance ou quoi?
Alors, avec les boutiques, oui, forcément. Surtout que, c'est moi qui m'occupe de l'achat des jeux du local et je mets un point d'honneur à acheter les jeux dans les boutiques lyonnaises et éviter les achats internet. Même si des fois ça m'arrive parce que je trouve pas le jeu et que les bénévoles ou les adhérents le veulent absolument et ils m'arrachent les vêtements pour avoir le jeu, donc là j'ai pas le choix, je fais commande sur Philibert. Mais sinon, effectivement, on s'efforce de prendre les jeux sur les boutiques et du coup on a des partenariats avec les boutiques. Tous nos adhérents déjà ont des réductions dans les boutiques de jeux lyonnaises et puis ça permet d'avoir un tissu avec eux. C'est très sympa, très convivial et donc voilà. C'est important d'être proche des boutiques lyonnaises, d'être en bon terme avec eux.
D'accord.
Évidemment.
Et donc, j'imagine tout ce qui est auteur et maison d'édition lyonnais, tout ce qui est justement la cale collective des auteurs lyonnais et les différents éditeurs, vous travaillez aussi avec eux? Comment ça se passe?
On organise de temps en temps des soirées à la Triche qu'on appelle les soirées pour auteurs, où on invite des auteurs à venir présenter leurs prototypes, notamment. Il y a des expositions également qui sont organisées à la Triche, où on a spécial un auteur, où il va venir expliquer ses jeux et on va avoir une expo.
Les expos, je corrige un petit peu, c'est un petit peu différent. Les expos, l'idée derrière, c'était de dire, voilà, les auteurs, c'est bien qu'on les invite, c'est cool,
oui,
mais on oublie souvent les illustrateurs de jeux qui font 50% du boulot, hein, quasiment, et on s'était dit, voilà, on va mettre aussi en avant les illustrateurs et en inviter régulièrement, donc faire des expos temporaires de 3 mois, où on invite un illustrateur de jeu à exposer et puis on va faire effectivement une soirée autour des jeux qu'il a illustrés, qui peuvent être de différents auteurs. Mais voilà, l'idée des expos, c'était vraiment mettre en avant les illustrateurs.
D'accord, donc plutôt illustrateurs lyonnais ou de la région Rhône-Alpes?
Alors, pour l'instant, on a fait essentiellement des illustrateurs lyonnais parce que déjà il y en a quelques-uns, et puis bon, c'est sympa de commencer par eux, on les connaît, c'est des copains, donc voilà. Et après, on aimerait bien aussi s'étendre un petit peu. Après, réussir à avoir des illustrateurs plus connus comme Nayad et compagnie, c'est plus compliqué parce qu'ils sont bien demandés et puis après il y a aussi une question de droit d'auteur qui rentre en jeu, donc désespère pas. S'il y a des auteurs, des illustrateurs qui veulent venir exposer à la Triche, qui prennent contact avec nous, et c'est avec plaisir qu'on organisera une exposition de leurs jeux.
Le message est passé pour les illustrateurs.
Et ça tombe bien, alors on n'a personne pour l'instant sur décembre 2016. Appel à illustrateurs pour l'exposition de décembre 2016.
Que le monde est bien fait. Des petites annonces. Très bien, en espérant que ça fonctionne.
Ça fonctionne très bien. Les gens sont vraiment contents. hein, déjà de faire une soirée autour de l'illustrateur, parce qu'il est là, il fait des dédicaces, c'est vraiment un rapport avec eux qui sont sympas, et puis ça fait vraiment une vie au local qui est intéressante.
D'accord. Et pour poser une petite question à propos du fonctionnement du local d'un point de vue sous, en fait, d'un point de vue fonctionnement budgétaire, est-ce que vous pouvez me décrire un peu comment ça se passe, quelles sont vos rentrées, vos sorties, comment vous fonctionnez pour acheter des jeux, avoir le local, etc.
Pour les jeux, en tant que grand dictateur du club, du groupe jeux, non, c'est pas vrai. On a un budget illimité, c'est pas vrai non plus.
Alors qu'est-ce qui est vrai ?
On a un petit budget de 2000 euros par petit. 2000 euros pour acheter des jeux sur l'année. Après, on a beaucoup aussi de partenariats avec les éditeurs qui nous envoient régulièrement des jeux. Donc, ça nous permet d'acheter d'acquérir à peu près 120 jeux, 130 jeux par an, ce qui est plutôt pas mal.
Et au niveau du local, c'est...
Au niveau du local, les principales rentrées d'argent, ce sont les adhésions des adhérents. Puisqu'on a un gros volume d'adhérents, ça nous permet de faire une grosse rentrée à ce niveau-là. Et les ventes de boissons.
D'accord. Okay,
on a un café, donc on vend tout ce qui est bière, cidre et jus de fruits, etc.
Artisanaux.
Et
locaux.
Et locaux. Même les bières sont
surtout
locales.
Surtout les bières.
Et donc du coup, nos rentrées d'argent se placent à ce niveau-là.
D'accord. Donc vous fonctionnez en vraiment local avec des brasseurs lyonnais, lyonnais ou de la région.
De la région.
Ouais, d'ailleurs, il y a un groupe qui s'est créé l'année dernière, je crois, qui s'appelle le groupe Binouze, et qui s'occupe particulièrement de renouveler régulièrement la bière du moment. Tous les deux ou trois mois, ils vont voir des brasseurs de la région. Qui vont leur proposer des bières spécifiques. On change régulièrement, ça apporte de la nouveauté pour les gens qui viennent et ils peuvent découvrir une bière à chaque fois différente.
Ok, donc un lieu de débit de jeux.
Débit de boissons et jeux de société.
C'est
le sous-titre du café. Et sinon, sur le modèle économique, effectivement, Simon a dit que les rentrées d'argent, c'est les adhésions et les boissons, et c'est que ça.
D'accord.
On est une association, mais on n'a pas de subvention.
D'accord.
Depuis le début, on fonctionne vraiment en autonomie.
D'accord.
En fait.
Okay. Et est-ce que c'est un choix de projet ?
C'est un choix. C'est un choix et on y tient parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ne peuvent pas continuer dans la durée parce qu'ils n'ont plus de subvention de fonctionnement. Nous, on sait sur quoi on peut tabler. On connaît nos recettes habituelles chaque année, quoi. Mmh. Et puis bon,
Après, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un nombre d'adhérents qui est faramineux. Hein. C'est qu'il y a plus de 4000 adhérents, 4664 adhérents cette année. Hein. Donc c'est en termes de, ça soulève notre petit pactole et on est une association qui fonctionne très bien. Heureusement pour nous, on espère que ça va continuer comme ça.
D'accord. Bon, je l'espère aussi. C'est moins que je puisse. Et donc en ce qui concerne, donc vous faites, c'est un café de jeux de société avant tout. Et est-ce que vous avez des animations ponctuel ou pas en fait sur les autres types de jeux, les jeux de rôle, les jeux vidéo, les jeux football.
Quelquefois quand on est à l'extérieur, on peut avoir des animations de jeux d'extérieur qu'on fait pas normalement à la triche. Après, en fait, comme on l'a dit, on est une association qui fonctionne énormément très bien avec les jeux de plateau, et que tous les soirs on a 50 places et que à 19h30, c'est-à-dire une demi-heure après l'ouverture, c'est déjà complet. Donc on aimerait pouvoir aller sur d'autres types de jeux. Enfin, je pense que peut-être certains bénévoles aimeraient aller sur d'autres types de jeux comme les jeux de cartes, les jeux de figurines, les jeux de rôle surtout aussi. Mais en fait, on peut pas tout faire. Donc à un moment, notre association, elle est typique pour les jeux de plateau. On n'a ni la place, ni le temps pour faire autre chose parce qu'on a déjà des jeux de plateau de partout. On ne sait plus où les ranger. À chaque fois, on a beau en enlever chaque année parce qu'ils sont trop vieux ou parce qu'ils sortent plus. Et ben comme on en a chaque année en plus, toujours on en a plus. Mais après, épisodiquement, par exemple, là, on a en projet de faire une animation spéciale un dimanche sur le jeu de rôle, qui, pour l'instant, elle est juste en idée. Donc on va essayer, un dimanche, de faire une animation pour faire découvrir le jeu de rôle. Il y a eu des animations de loup-garou. Donc un peu, c'est entre le jeu de plateau et le GN, quoi. Mais, voilà.
D'accord, ça marche. Et donc votre, bah, votre public qui fréquente la triche en fait, qui sont les, qui
les
sont
les
tricheurs, les joueurs, qui sont les joueurs,
mais pas que,
des non joueurs,
des non joueurs aussi,
ils deviennent joueurs,
c'est ça.
Bon, on a un public qui est assez jeune ensemble quand même, hein. C'est, enfin, ça fait 20-40 ans sur notre public principal. Bon, ça fait large quand même, 20-40 ans. Hein. Enfin, après, on a aussi des personnes âgées qui viennent. Le week-end, on a souvent des familles qui viennent avec des enfants. Donc on a toute une gamme de jeux adaptés justement aux familles à partir de 5-6 ans. Hein. Même un peu en dessous. On est même, on fait parfois même des animations autour des jeux pour, la, pour les enfants, ça nous arrive. Donc on a un public qui est quand même assez large. Quoi. Et puis c'est des gens qui viennent, qui ne connaissent pas forcément le jeu. On a souvent des gens qui viennent et qui disent, bah voilà, moi je ne sais pas jouer, qu'est-ce que vous me conseillez ? Et les bénévoles sont évidemment là pour aider, conseiller, expliquer et faire qu'ils aient passé la meilleure soirée du monde.
Ok.
Et un petit scoop, parce qu'on n'a pas encore communiqué là-dessus sur Internet, c'est qu'on va ouvrir les mercredis après-midi et les vendredis en fin d'après-midi pour accueillir les familles, justement.
D'accord.
À des moments qui sont pour l'instant pas chargés en termes de fréquentation, parce que les week-ends, c'est un petit peu compliqué aussi pour les familles de venir, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Donc voilà, on ouvre des nouvelles plages horaires pour accueillir les familles à des moments un peu plus propices pour elles.
D'accord, ben voilà, le scoop proxy jeu pour tous les auditeurs qui viendraient à Lyon le mercredi après-midi. Bon, les Lyonnais, bien sûr. Ben voilà, ben très, merci beaucoup. Alors, quelques petites questions pour conclure. Donc, qu'est-ce que le tissu ludique lyonnais général vous inspire ? Alors, notamment, je sais qu'il y a le Ludopole qui a fermé il y a l'année dernière, si mes souvenirs sont exacts. Est-ce que vous avez senti un avant, un après Ludopole comment se porte le tissu ludique lyonnais maintenant ?
Déjà, c'est toujours triste de voir qu'un acteur important du monde ludique disparaît, ferme ses portes. Ouais. Donc c'est toujours dommageable. Après, le tissu ludique de Lyon, il marche très bien. On a plein d'auteurs, on a plein de boutiques, on a plein d'associations. Pour le joueur et pour ceux qui veulent s'investir dans le monde ludique, Lyon est quand même un endroit particulièrement propice pour découvrir des jeux et pour rencontrer tous les acteurs du monde ludique. On a aussi Ludovox qui est pas très loin, donc qu'on voit régulièrement et qui a son petit rôle aussi. Donc voilà. Donc c'est
Et des boutiques qui continuent, des boutiques ou des cafés jeux qui continuent.
Qui continuent à s'ouvrir, tout à fait.
Il y a d'autres projets.
L'Athénium qui est ouvert il y a pas longtemps.
Ouais.
Après, il y a des boutiques qui ferment aussi.
Chronium, c'était pas voulu, par exemple, ils vont réouvrir, j'imagine, très rapidement.
Donc le monde bouge, il y a des choses qui rouvrent, il y a des choses qui ferment, ça avance, mais en tout cas.
Il y a des projets de café aussi.
Il y a des projets, tout à fait. Donc, on ne va pas s'ennuyer.
Ok, bah des belles choses. Donc pour finir, donc Nathalie, tu fais partie cette année du jury de l'As d'Or du festival de Cannes, donc félicitations. Qu'est-ce que, en deux mots, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Une grande surprise déjà, ça représente. Je ne pensais pas me retrouver un jour à cette place. Depuis le temps que je suis joueuse, c'était un peu quelque chose qui n'était pas envisageable en fait. Donc j'ai eu la surprise d'avoir été proposée comme membre du jury par Nadine Seul, avec qui j'avais été en contact plusieurs fois pour le réseau des cafés ludiques, pour proposer l'As d'Or à la triche. Enfin voilà, des choses qui ont fait que, comme elle avait envie de faire représenter Lyon, d'avoir un public plus féminin et aussi de représenter les cafés ludiques, et ben voilà, je suis à la croisée de toutes ces personnes et voilà, c'est une grande fierté de pouvoir représenter les cafés ludiques, en tout cas comme membre du jury, et ça va être une belle expérience.
Et bah, félicitations. Et pour conclure cette interview, est-ce que vous avez un ou plusieurs mots de la fin ?
Non.
Fin ?
On va jouer ?
On va jouer, voilà, je pense que c'est un mot parfaitement adapté. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures
à bientôt,
ludiques.
Merci.
Au revoir.